Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
J'ai dormi 3 heures. Je m'en suis pas rendu compte tellement j'étais fatiguée, épuisée. Et sans doute, le côté, je pense, de la fatigue, peut-être post-Covid, peut-être tout ça, enfin tout se mélange, mais j'ai une grosse fatigue réellement. Et donc, la décision, c'est de se dire, il est 2 heures du matin, je suis toute seule, enfin là, je suis sous l'attente des docs. Il faut que je reparte, mais j'ai encore 20 kilomètres à faire. J'ai plus de GPS, donc je n'ai plus de montre. Je vais partir pour 20 bornes. Donc, je demande qu'ils me remettent le sac sur le dos. Je n'ai qu'une seule pensée. C'est que je sais que ma fille qui regarde et qui suit la course, elle regardait le point sur le site. Et je me dis, mais elle doit se dire, elle est coincée au CP6 et c'est terminé. La course est terminée, quoi. Et moi, je ne peux pas leur montrer que la course est terminée. Et je leur avais promis une chose, c'est de ne pas abandonner.
Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Laurence Klein. Laurence possède un palmarès en course à pied dont la lecture pourrait presque remplir à elle seule un épisode entier de Course Épique. Référence incontestée sur le format 100 km au niveau national et international, Laurence s'est également illustrée sur la distance marathon, en trail et sur le marathon des sables qu'elle a remporté à 3 reprises et tant d'autres courses sur lesquelles elle a brillé. Âgée aujourd'hui de 53 ans, Laurence est un modèle de longévité à haut niveau. Au-delà de sa quête de défis sportifs ambitieux, elle place au cœur de son approche la dimension humaine, la relation à l'autre et le respect de l'environnement dans lequel elle évolue. Laurence a une sensibilité qui m'a particulièrement touché, doublée d'une force de caractère et d'une assise qui ne peuvent que susciter le respect et l'admiration de ceux qui l'écoutent. Elle va nous faire vivre aujourd'hui son Marathon des Sables 2022, une expérience forcément épique qui a notamment été contrariée par le Covid, venu mettre son grain de sable dans sa phase de préparation. Laurence évoquera également dans cet épisode les raisons qui la poussent à venir se ressourcer et se retrouver année après année sur cette course si atypique au cœur du Sahara marocain. Mais je ne vous en dis pas plus. Laurence va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, désert de famille. Bonjour Laurence et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien, merci Guillaume.
Où est-ce que tu es Laurence aujourd'hui ?
Alors, où je suis ? Je suis en fait dans le sud. J'habite en Champagne-Ardenne, mais je suis partie pour quelques jours dans le sud, du côté de l'Estérel.
Parfait, profite bien. C'est le début, c'est ça ? C'est des petites vacances ? Une petite coupure ? Ou télétravail ?
Alors, on va dire un télétravail et puis je suis partie voir également des clients dans le sud. Donc, voilà.
Tu allies le meilleur des deux, boulot et plaisir. Laurence, j'ai eu le plaisir de faire ta rencontre dans un havre de paix et le temple de la détente qui était la tente 99 du dernier Marathon des Sables que tu partageais notamment avec l'équipe Koh-Lanta, Steven Le Yarrick, Perrine Fage ou encore Laura alias Foutrac. On a fait pire comme compagnon de chambrée, je pense qu'on peut le dire.
Ah, c'était très sympathique. J'avoue que c'était un marathon des sables qui était un petit peu particulier. puisque habituellement, je suis plus sous une tente avec des concurrents plus attrait au marathon des sables ou en tout cas expérimenté. Là, un peu moins, mais c'était sympa également parce que c'était un autre univers et ça m'a placé dans une autre façon de voir le marathon des sables également, avec des personnes juste extraordinaires. On est restés tous très amis.
Laurence, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Donc, j'ai 53 ans maintenant. Le temps passe trop vite. je suis dirigeante d'une société 100% sport business. C'est pour ça que je suis là aussi pour aller voir les clients, puisqu'on est une force de vente supplétive dans l'univers du sport. Donc, je travaille avec les différentes marques de sport et donc avec des commerciaux qui sont sur le terrain. J'ai deux enfants, Lilian, 26 ans, Ambre, 21 ans.
Des grands enfants.
Des grands enfants, exactement, adorables, les amours de ma vie. Et je suis mariée avec un golfeur qui n'a rien à voir avec l'univers. si peut-être dans les bunkers, on avait le sable qui était en commun.
Il met des guêtres ou pas quand il va dans le bunker?
Non, mais je l'ai emmené au milieu du désert. Il était vraiment très content et j'ai fait découvrir le désert à toute ma famille en partant quelques jours à la rencontre. On est parti en bivouac et à la rencontre des Touaregs et c'était super.
Tu as réussi à leur faire mettre des baskets pour aller cavaler sur les dunes?
Ouais, ça n'a pas été trop long
à les convaincre,
ouais.
Laurence, est-ce que tu peux nous parler de ta relation au sport quand tu étais plus jeune, enfant ou ado? Est-ce que le sport était très présent dans ta vie, dans ton entourage familial ou amical?
Alors, moi, j'ai commencé la course à pied en école d'athlétisme. Donc, c'est quand même, j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans.
C'était un choix, c'était à ton initiative ou on t'a soufflé à l'oreille que c'était chouette de faire ça?
Alors, à l'époque, il y avait l'UNSS, il y a toujours, hein, c'est le sport à l'école et en compétition. Et j'ai mon professeur de sport a tout de suite vu que j'avais des aptitudes à courir assez vite déjà, puisque voilà, et longtemps. Et assez vite, c'était plutôt rigolo parce que quand on fait des courses de relais à l'école, on a tendance à mettre les garçons qui choisissent les partenaires pour appartenir aux courses de relais. Et moi, j'étais assez fière d'être choisie tout de suite avant les garçons. Donc,
est-ce que c'était chou-fleur ou pas le choix il se faisait, c'est ça? Non, tu connais ce truc de chou-fleur où tu marches avec les pieds et puis celui qui écrase le pied de l'autre peut choisir en premier qui va mettre dans son équipe?
Non,
ça te dit rien?
Non, ça me dit...
Prochaine fois qu'on se voit, on fera ça, on fera une partie de chou-fleur.
Je connais par contre.
Donc, toi, tu étais l'atout en tout cas, il te percevait comme un atout dans l'équipe.
Voilà, exactement. Et puis, je pense aussi que mes premières compétitions, étant donné que je suis souvent en retard, c'est mon grand défaut, j'ai couru quand même beaucoup après le bus scolaire. Et donc, je pense aussi que très vite, je me suis aperçue que je pouvais faire de la compétition. Mais je le rattrapais à l'arrêt suivant.
Est-ce que cet éveil au sport, il était assez global ou c'est vraiment la course à pied avait déjà une saveur toute particulière pour toi ?
Non, la course à pied, vraiment. J'aimais courir. J'aime vraiment la compétition. Et j'aime plus la compétition que l'entraînement. J'aurais tendance à dire, malheureusement, il faut aller s'entraîner pour être bon en compétition, mais ça serait que moi, je mettrais un dossard à chaque fois et c'est le dossard qui me motive plus que l'entraînement. Donc, je ne sais pas si je suis une sportive vraiment à dire à fond le sport ou si je suis une compétitrice dans l'âme. Parce que quand même, à travers aussi mon travail, je m'aperçois que ça me sert beaucoup et à chaque fois qu'il y a des challenges, j'adore ça. Donc, je pense qu'avant tout, je suis une compétitrice.
Donc, même très jeune, ce n'était pas forcément une source de pression additionnelle, mais au contraire, une source de motivation et d'excitation.
Moi, je me souviens que mes parents, alors quand j'ai commencé, il n'y avait pas l'euro, hein, c'était le franc. Et mes parents me donnaient des petites pièces que je mettais dans mon cochon quand je gagnais une compétition.
C'était ça ta motivation?
Ouais, Je crois qu'ils m'ont très vite appris que je peux peut-être gagner des petites choses en courant.
La petite souris avec les pièces de 2 francs sous l'oreille, ça ne suffisait pas. Il fallait gagner des compètes, Laurence, pour pouvoir t'acheter tes bonbons.
Exactement. Quand j'avais 2 francs, j'étais trop contente, quoi.
Tu nous as dit que ton entraîneur, en tout cas ton encadrement dans tes jeunes années, avait très vite détecté un potentiel. À quel moment, toi, tu t'es toi-même dit que tu avais probablement des capacités particulières dans la course à pied? Tu l'as su toi aussi très tôt, ou c'est plutôt le regard que les autres ont posé sur toi qui t'a aidé à en prendre conscience?
Alors, assez vite, puisque les premières compétitions que j'ai faites en UNSS, j'ai demandé quelle était la qualification pour aller au championnat de France. L'entraîneur à l'époque m'a dit « Attends, championnat de France, tu sais, c'est les très, 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 très bons. » Ben, ok. Et comment il faut faire pour aller au championnat de France? Et donc, et la première année, j'ai été qualifiée au championnat de France. Donc, très vite, il m'a inscrit dans un club. Cet entraîneur UNSS m'a inscrit, qui est Pierre Brateau, si je dois le nommer. Et il m'a inscrit dans un club FFA. Et j'ai pris ma première licence en FFA aussôtôt. Très vite, voilà, on arrive à faire les championnats de cross, puisque j'étais plus dans le demi-fond. Donc, 800 mètres, j'ai fait du 1000 mètres déjà dans un premier temps. Donc, 3,15 quand même, je faisais au 1000 en étant une jeune fille de 11-12 ans. Donc, c'était plutôt assez vite. Et ensuite, le 1500 mètres, le 10 000 en junior, j'avais fait vice-championne de France, donc sur 10 000 en junior, en 36-30, ce qui était aussi très bien, sur une piste, puisque le 10 000 se faisait sur la piste, donc 25 tours de piste. Je pense que c'est là où j'ai compris que pendant une semaine, je pourrais plus recourir derrière. Donc, mon corps était habitué, après, sur les longues distances, à apprendre que parfois, quand on fait des compétitions comme le 100 km, le marathon, c'est normal qu'on puisse plus courir. Ce qui a le don de choquer à chaque fois les personnes autour de moi en me disant « mais t'appelles ça du sport ?» oui.
Il y a toujours des gens qui disent ça, on n'empêchera jamais ça.
Ouais, non, mais c'est sûr. On sait que le sport de haut niveau, c'est pas forcément le sport santé, mais c'est ce qui procure, en fait, qui est intéressant. Effectivement, on apprend à avoir ces douleurs. On sait que musculairement, ça va faire mal, mais c'est musculairement, quoi. Alors, on a l'impression qu'on se détruit complet, mais non, c'est pas plus méchant que les personnes qui vont faire un déménagement et que le lendemain vont se dire « j'ai mal au dos ». C'est la même chose.
On l'a compris, tu t'as grimpé petit à petit sur les distances, puis les résultats qui ont été assez vite significatifs. Est-ce que tu avais, de ce que tu me disais là sur les championnats de France, est-ce que tu avais une grande confiance en toi, ou c'était presque une part un peu de naïveté et d'innocence sur qu'est-ce qui m'empêche de franchir le palier d'après et puis d'avoir beaucoup d'ambition? Est-ce que c'était finalement pas calculé, ou est-ce que c'était déjà la preuve d'une grande confiance en toi et puis l'envie de réussir, de performer et d'être au plus haut niveau possible?
Je le dois à mon père, tout ça. Mon père, malheureusement, que j'ai perdu à l'âge de 20 ans, m'a toujours aidée quand j'étais plus jeune à m'emmener dans des parcs publics. C'est aussi comme ça que ça a commencé. Et il me disait, tu vois le monsieur là-bas, va courir avec. Oui. Bon, moi, j'étais toute petite. Alors, je courais et j'allais voir la personne qui avait 20 ans ou 30 ans de plus que moi. Et je dis, monsieur, je peux courir avec vous? C'était très drôle.
Et il disait, oui, mais cours pas plus vite que moi, s'il te plaît.
Et ça choquait. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé. Et donc, et mon père était sur la piste et il me voyait courir, mais il se disait, elle va courir avec cette personne. Et je me souviens de Jean-Paul, avec qui j'ai eu pris l'habitude de courir avec le dimanche au parc Léo Lagrange, et qui maintenant, forcément, à 70 ans, il se dit que à chaque fois, il retrace mon parcours et il me dit, mais tu te souviens que tu étais venue la première fois quand tu étais haute comme 3 pommes à me dire si je pouvais courir avec moi? Il me dit, là, quand je vois ton parcours, on en parle souvent. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire pour lui comme pour moi. Ouais. C'est une belle histoire.
Un beau lien. On verra que la dimension humaine est assez centrale, non, je pense, dans ton approche du
oui,
sport.
Oui, ouais, c'est toujours, il y a toujours un lien avec un partage, avec une façon de voir les choses. Mon père m'a, quand on regardait le sport à la télé, parce que même si je pratique que la course à pied, j'aime regarder tous les sports et j'adore tous les sports. Et on regardait bien souvent les matchs de rugby ou autres. On se levait devant la Marseillaise, on écoutait cette Marseillaise et on chantait cette Marseillaise tous les deux. Et c'était assez un lien assez important. C'était un partage fédérateur, quoi, en fait, avec cette équipe de France. Et pour moi, l'équipe de France, ça a toujours été quelque chose de juste somptueux. Et alors, le côté patriote, mais surtout courir pour son pays, je trouvais ça génial, quoi. Et pour moi, à un moment, je me suis dit, mais je rêverais d'avoir cette Marseillaise, quoi. Je rêverais de ça. Je rêverais
d'avoir. Et ça te semblait réaliste ? Enfin, est-ce que tu l'envisageais comme un rêve inaccessible ou tu te disais que c'était envisageable et que tu, en tout cas, mettrais tout en œuvre pour un jour porter les couleurs de la France ?
Exactement. Ouais, ouais. Dans ma tête, toute petite, je me dis, mais un jour et pourquoi pas ? Et j'ai pas peur de me mettre des objectifs qui pourraient être parfois inatteignables, mais ça, on ne le sait pas que c'est inatteignable tant qu'on n'a pas tenté de les atteindre, tant qu'on ne met pas tout en œuvre pour les atteindre quand on veut vraiment. Je pense que tout est possible. Voilà, mais bien sûr, j'ai jamais dit que je voulais aller marcher sur la Lune, hein. Encore.
C'est encore jouable.
Encore jouable.
Pour Mars, ça va être plus compliqué, probablement.
Mais ça ne fait pas partie pour l'instant de mes objectifs. Voilà.
Il y a déjà pas mal de trucs à faire sur la planète.
Exactement.
Encore, je pense, de jolies choses. Est-ce que cette idée d'aller sur des formats de plus en plus longs, est-ce que tu pressentais plus jeune que tu allais avoir aussi cet intérêt à aller te tester sur des distances longues et ultra longues? Et puis au-delà de l'effort physique qu'impose ce type de format, est-ce qu'il y avait aussi, enfin, il y a cette idée en toi aussi de te dire que tu peux aller chercher une espèce de quête spirituelle, une envie d'introspection, de mettre à l'épreuve ton mental? Est-ce que c'est aussi ça que petit à petit t'as poussé sur des formats longs?
Alors oui, quand j'étais cadette junior, j'avais mon entraîneur qui était Patrick Franco, le mari à l'époque de Françoise Bonnet. Françoise Bonnet, c'est une athlète qui a fait 2h29 au marathon et qui a fait les JO de Séoul. Et à l'époque, je m'entraînais avec ce groupe, dans ce groupe d'entraînement. Et c'était mon idole, Françoise, elle était géniale. Et du coup, Patrick me mettait sur les séances avec elle. Quand elle faisait, par exemple, un 2000, moi, je la tirais sur 1000 mètres. Donc en junior déjà. Donc j'avais l'impression de faire partie, quand elle a fait les jeux, de faire partie de cette histoire, de cette préparation. Et elle me faisait rêver et je m'entraînais avec elle dans les bois de Verziers en Champagne-Ardenne, qui était juste, c'était fabuleux de partager ses entraînements avec elle et qu'elle m'expliquait toute sa préparation. Et elle me faisait déjà rêver sur les longues distances. Donc, je lui dois une partie aussi de ça et c'est pour ça aussi. Je pense que, oui, elle a fait partie aussi à un moment donné de mes choix de course à pied et de me faire rêver là-dessus.
Est-ce qu'il y a un moment de course que tu aimes tout particulièrement ? Un instant de grâce, un moment que tu peux retrouver à chaque fois où tu as le sentiment d'être... Enfin, où les sensations sont exacerbées et c'est un moment absolu. Est-ce qu'il y a une constante dans ça ? Est-ce que c'est les moments que tu peux retrouver de façon assez systématique sur des courses ou est-ce que c'est en fonction de la nature de la course, la façon dont toi tu vas la vivre ce jour-là ? Est-ce qu'il y a vraiment de façon récurrente un moment qui t'est cher, qui peut être dans la course, qui peut être dans la phase préparatoire, à l'arrivée ? Voilà. Est-ce que, s'il y en avait un ?
Alors honnêtement, toutes les victoires, on va dire, où on passe la ligne d'arrivée première, où on sait que dans le dernier kilomètre, ça va être la victoire. Là, c'est juste fabuleux parce que on se dit, on n'est presque plus dans la course, je vais dire. On est dans, on est dans tout ce qui va pouvoir découler, tout ce qui va pouvoir se passer, ce qu'on va dire, le plaisir qu'on va procurer aux autres personnes que soi. C'est-à-dire son entraîneur en disant il va être super content, c'est les enfants à la maison, toutes les personnes qui sont accrochées à cette préparation, on a l'impression qu'on leur dédicace avant même de passer la ligne d'arrivée déjà cette victoire. On se dit, il va y avoir une interview à l'arrivée, faut pas que j'oublie de dire ça. C'est marrant parce que je vois bien, sauf quand c'est bien sûr un sprint et qu'on est encore en combat dans le dernier kill. Et là, bon, ça décroche pas tout de suite. Mais quand même, c'est vraiment de se dire, c'est génial, je l'ai fait, j'en suis là. Quand je bats le record de France sur 100 km ou que je suis championne d'Europe, mais il se passe plein de choses, quoi. Je me dis, mais là, c'est le record de France, quoi. C'est juste énorme. Et je me dis, bon, il faut aller le percher, quoi. Et voilà, et je cours, je finis très fort ce sans borne, mais c'est un instant un peu de, on plane un peu, hein, c'est de l'adrénaline à fond, on n'a plus mal, on se sent des ailes voler. Je me souviens quand j'étais junior, je fais deuxième aux 1500 mètres en UNSS au championnat de France. Je suis partie à 200 mètres de l'arrivée. Je me demande, je sais même pas qui m'a poussée à un moment dans le dos pour que je parte. Voilà, ça a fait comme ça. C'est voilà, je suis partie, je fais deux. Je me dis, c'est génial, quoi. Et ben, c'est tous ces moments d'arrivée qui sont juste fabuleux. Hein. Ouais, c'est la compétition qui reprend le dessus et la victoire qui est juste géniale.
Hormis le marathon des sables, qu'on va avoir très largement l'occasion d'évoquer plus tard dans cet épisode, tu as couru donc de très nombreuses courses et compte un palmarès sportif exceptionnel, avec notamment donc un record de France sur 100 km que tu détiens désormais depuis 15 ans. C'est quand même très, très impressionnant. Un titre de championne d'Europe, de vice-championne du monde du 100 km, de championne de France de marathon en 2h37, de championne du monde de trail en équipe en 2011, de triple vainqueur du marathon des sables. Il y a les éco-trails dans tout ça. Enfin, j'en passe parce qu'on pourrait passer un bon moment à narrer toutes tes brillantes performances. Je te propose juste un petit format de questions-réponses sur les courses qui ont marqué ta vie. Donc voilà, il faudrait que tu me répondes brièvement sur à chacune et que tu me motives ta réponse en 3-4 phrases. Est-ce que tu pourrais me parler de la course qui a été la plus exigeante pour toi jusqu'à aujourd'hui ?
Exigeante. Peut-être la...
Entends-le au sens physique ou psychologique, voilà, ouais. Peu importe.
La préparation pour la sélection au championnat du monde d'athlétisme sur marathon. Il fallait faire 2,37. J'ai vraiment fait 2,37. C'était très très exigeant dans le sens où, voilà quoi, j'avais 40 ans. La possibilité derrière le 100 km de se dire possible d'aller faire un championnat du monde d'athlé, côtoyer les plus grands sur la piste, défiler à côté du Usain Bolt, pour moi, c'était quelque chose de juste fabuleux, parce que quand on court du 100 km, du trail, on est vraiment, on est sur la route, on va pas rentrer dans la piste d'athlé, quoi. Alors que le marathon, hein, championnat du monde, c'est les championnats du monde d'athlétisme. Donc, c'est, voilà. Il y avait une pression. J'étais la plus âgée de l'équipe de France à 40 ans. Faire partie de l'équipe de France d'athlée, c'est extrêmement rare. Donc, voilà, j'avais cette pression de vouloir à tout prix avoir cette sélection. Donc là, ça a été vraiment exigeant au niveau de l'entraînement, à partir à faire des 200 km par semaine, à sacrifier beaucoup de choses, à expliquer aux enfants qu'il fallait que maman s'entraîne. À l'époque, j'habitais seule sur Reims. Mon fils m'aidait à courir avec le vélo. Ambre était là également. Et c'était pour moi, ça a été exigeant. Mais c'était bien, ça a été super. Une belle expérience.
La course qui a été la plus surprenante ?
Surprenante. Alors, désolée, mais à chaque fois, ça, c'est quand même des grandes courses. la course des championnats du monde de trail où on gagne par équipe, championne du monde de trail par équipe avec Maud Gobert et Aurélia Truel. Au Connemara, je fais sixième au classement individuel. Et là, la place est déterminante pour être championne du monde. Et pour être championne du monde par équipe, il ne faut juste pas que je lâche. Et là, j'ai la pression de folie parce qu'on dispute contre les Italiennes. Et il y a deux Italiennes qui me passent et il faut à tout prix que je revienne dessus. Donc, il y a une vraie exigence de parcours. Je me plante sur le parcours, je me mets un stress pas possible pour revenir sur elle. Le parcours me convient pas du tout parce que c'est un parcours marécageux et j'ai pas d'appui, les appuis sont fuyants. Bon, je pense que j'arrive en pleurs à l'arrivée en me disant c'était terrible comme course, mais en même temps, on a la petite étoile sur le survêtement qui est envoyé ensuite de la Fédé en se disant qu'on est championne du monde de trail. Donc, exigeant, surprenante et en même temps exceptionnelle, quoi, gratifiante, exactement.
La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance ou la plus inattendue défaillance?
Ah,
est-ce que c'est celle dont on va parler aujourd'hui?
Ouais. Le marathon des sables. Le marathon des sables en 2013. J'avais gagné 2007, 2011, 2012. 2013, c'était reparti pour je voulais faire la passe de cap. Et en 2013, en fait, je pars sur la longue étape et je rate, je pense, de prendre une bouteille. Je me déshydrate assez rapidement. Il fait très, très chaud. Je suis en tête sur le classement scratch, sur le classement général. J'ai 1h30 d'avance. Donc, c'est déjà plus que très bien. Et je suis avec Vincent Delbar et Benoît Laval. Et dans un cordon de dune, je sais pas, tous les trois, je sais pas ce qu'on fait. Il nous manque vraiment beaucoup d'eau, mais il y a eu beaucoup de concurrents à qui c'est arrivé d'avoir, parce qu'il faisait très très chaud, hein, il faisait à ce moment-là 50 degrés dans ce cordon de dune, c'était juste énorme. Et en fait, il nous reste 4 km et on a plus d'eau du tout. Donc on se déshydrate très vite hein, à ce niveau-là avec le sac qu'il faut porter en autosuffisance qu'on a sur le dos. Et j'arrive au CP et au CP, ben, je suis pas bien. Je leur dis que j'ai froid, donc c'est pas bon signe hein, forcément. Et là, je me pose, je me réhydrate, je me dis là j'ai vraiment un coup de moins bien. Et du coup, je suis obligée de me poser plus longtemps, de laisser passer. Mais de laisser passer, il me laisse repartir 10 km. Et quand j'arrive sur le CP d'après, je suis obligée d'arrêter. Ils sont obligés de me perfuser. Et là, tout s'échappe, tout est galère. Et en fait, cette quatrième victoire, je la perds mais à une vitesse folle, quoi. Je passe d'un état où je suis très bien à un état où je suis très mal. Et tout ça me bouleverse, quoi. Et là, ça a été la plus dure parce que je n'imaginais pas qu'on puisse avoir un tel échec sur une course et que ça m'affecte autant. Et ça m'a tellement affectée, ça m'a affectée mentalement, mais ça m'a affectée physiquement puisque 3 mois après, je fais une rupture du tendon d'Achille et je ne peux pas aller au championnat du monde de trail où je suis qualifiée et je suis obligée de laisser ma place. Donc, ça a été très, très dur, ce marathon des sables en 2013. Ça n'empêche pas que j'adore le marathon des sables, mais c'est le petit grain de sable qui était dans l'engrenage et qui s'est très très mal passé et que d'un seul coup ça a été la catastrophe. Donc plus mauvais souvenir, je vais dire, mais en tout cas l'échec le plus catastrophe, quoi.
S'il n'y en avait qu'une, je sais que c'est très difficile, la course que tu n'oublieras jamais.
S'il y en avait qu'une.
La première que tu racontes à tes petits-enfants, le jour où ils seront là.
Honnêtement, quand je suis championne, le même jour, en fait, Je suis championne d'Europe du 100 km. Je bats le record de France. Je fais vice parce que les championnats du monde étaient en Europe. Donc, on doublait. On faisait championne d'Europe et vice-championne du monde. Donc, j'ai quand même, et par équipe, on fait aussi championne d'Europe et vice-championne du monde. Donc, en une seule course,
jackpot.
C'est jackpot, quoi. C'est la course la plus magnifique et qui a été la plus étrange également parce que tout se cumulait, quoi. Un bonheur d'un seul coup de se dire oh, mais j'ai fait tout ça et pendant de réaliser, ça a été long de réaliser.
Tu t'es senti dépassé par tout ça?
Ouais,
ça,
ouais,
ça a pris
ouais.
Une ampleur que tu mesurais pas. Tu as vécu ça comme dans un état second presque.
Ouais, j'avais fait une super préparation, mais avoir tout ça d'un coup, c'était juste fabuleux et bah, c'était énorme quoi. J'ai adoré ce moment-là. Ouais, j'ai adoré. Mm.
Dans les courses un peu plus récentes, il y en a une un petit peu particulière, c'est 2019, puisque tu annonces la fin de ta carrière sur 100 km route et que tu conclus avec une victoire sur les mythiques 100 km de Millau. Qu'est-ce qui a guidé ce choix de mettre fin à cette carrière sur 100 km? Puis quel sens, toi, tu te donnes à cette ultime victoire de 100 bornards?
Alors, les 100 km de Millau, c'est les 100 km les plus connus en France, les plus anciens, voilà. Et Millau, j'avais toujours dit que je le ferais un jour. Parce que j'avais dit, je ne peux pas faire les 100 km, dire que j'ai fait les 100 km. C'est un peu comme le marathon de Paris ou le marathon de New York. On est marathonien, on veut faire le marathon de New York et on se dit, voilà. Bien souvent, les marathoniens, quand on leur demande, on dit, ah ben, je suis marathonienne. Ah bon, tu as fait New York? Ben là, c'est les 100 bornes, c'est ah bon, tu as fait Millau. Donc moi, je répondais toujours, ah ben non, j'ai pas fait Millau. Ah bon? J'avais l'impression qu'on me dit.
Donc là, les gens te jetaient des tomates, on disait, ouh, bah, elle a pas
fait Millau. Pourquoi elle a pas fait Millau? Et là, je me suis dit, eh ben, le dernier que je ferai de ma vie, ça sera Millau. Donc, le dernier 100 km de ma carrière, ça sera Millau. Et comme j'aime beaucoup les dates, moi, je suis assez accrochée aux dates, l'affection que je peux avoir. Les 100 km de Millau en 2019, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille. Mon fils m'accompagnait en vélo pour mon dernier 100 km, alors qu'il a toujours été là à accompagner tous les grands 100 km, sauf ceux au niveau international où on n'a pas le droit d'avoir d'accompagnant en vélo, mais sinon, c'est toujours mon fils qui m'a accompagné en vélo. Donc, il pouvait être là et je fêtais mes 1 an de mariage avec Fabrice. Donc, il se passait plein de choses, en fait, et c'était le dernier 100 km. Donc, je suis partie en me disant, bon, il faut que je fasse ce dernier 100 km et il faut que je le fasse bien. Je me préparais, certes, mais je veux surtout bien le vivre. C'est mon dernier 100 km. Donc, je suis partie 40e, vraiment loin, enfin, loin pour moi. Et je fais un premier marathon parce que le 100 km de Millau, on fait déjà, il y a un marathon dans le 100 km de Millau. Et quand j'arrive au marathon, 3 km de l'arrivée du marathon, je passe la première marathonienne. Donc, je gagne en fait dans Millau le marathon féminin, mais je ne m'arrête pas, je continue. Donc, voilà, la première fille.
Donc, je vais encore faire 60 km, je suis bien là.
je dis à Lilian, je lui avais dit, attention, c'est hyper vallonné, quoi, les 100 km de Millau. Donc, surtout, pas de panique sur le vélo et surtout, no comment. Et mon fils, c'était assez drôle, il m'avait dit, bah, je vais peut-être prendre un vélo électrique. Je dis, non, attends, on est tous les deux dans l'effort, tu prends le vélo, quoi. C'est le pauvre.
Bien tenté.
Mille excuses, Lilian, pour ce périple. Et en fait, on part sur la course les 60 derniers kilomètres quand même. Et là, je fais une remontée, je me fais vraiment plaisir et je fais une remontée. Je gagne certes en fille, mais je fais 10e au classement scratch chez les hommes en 8h36 à 50 ans. Donc, j'étais contente pour mes 50 ans d'avoir gagné ce 100 km de Millau qui était pour tout le monde
la Mecque
du 100 km. Donc maintenant, je dis oui, j'ai fait Mio, oui.
Là, les 2019. Gens te respectent beaucoup plus dans les dîners en ville maintenant, Laurence.
Je suis une vraie Saint-Bernarde. et donc, je me suis vraiment fait plaisir parce que ça a été un petit pèlerinage, en fait. C'était génial et mettre une vraie fin aux 100 km. Et je me suis vraiment fait plaisir dans cette course.
Et pourquoi le choix d'arrêter ce format et pas nécessairement d'autres types de courses ?
Ouais, j'ai souvent dit que je voulais m'arrêter au Marathon des Sables. J'ai dit à une époque, voilà, c'est le dernier. Et lui, j'arrive pas à m'arrêter.
Personne ne t'avait cru de toute façon, je pense, Laurence.
Le 100 km, je voulais mettre un point parce que là, il y a un record. Il y a, ça nécessite aussi quand même de la préparation. Et surtout, là, je suis passée à la Fédération française d'athlétisme, référente du 100 km, pour maintenant sélectionner les athlètes en équipe de France. Et j'irai avec Olivier Guy, qui est à la Fédé, ce 100 km. Donc, j'ai un vrai rôle encore dans le 100 km. Je n'ai plus à courir de 100 km. Je suis là pour aider maintenant les jeunes athlètes, plus jeunes que moi en tout cas,
comme Florian Hott, à qui on fait coucou, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans le podcast.
Florian, en l'occurrence, et Camille, qui sont dans la ligne pour battre ce record de France. Et voilà, je sais qu'elles ont les aptitudes à le battre, mais être à leur côté et battre mon record, pour moi, on a deux choix dans la vie, c'est-à-dire que je peux avoir voir ce record battu et être dans mon canapé et me lever un matin et me dire « Tiens, mon record de France a été battu. » Et là, j'ai la chance de pouvoir dire « Mon record de France, s'il est battu et si je suis à côté, j'aurais participé encore. » Et c'est juste énorme de pouvoir vivre ça. Donc voilà, j'attends les prochains championnats du monde, les accompagner, ces jeunes filles et ces jeunes hommes, et qu'on ait des belles médailles, si je peux encore rapporter à la France quelques victoires et avoir aidé ces jeunes. Pour moi, c'est une vraie continuation, c'est un partage et surtout, on transmet. Je transmets à mes enfants des leçons de vie, je transmets aussi aux athlètes un parcours. Donc, c'est bien, j'adore ça.
On sera arrivé derrière nos écrans fin août pour ces championnats ouais. du monde à Berlin. On espère que ça se passera le mieux possible pour l'ensemble de l'équipe de France.
Ouais, ils sont adorables.
J'ai une question, Laurence. Alors, c'est sûrement comme Panoramix, tu vois, le Gaulois qui livre pas les secrets de sa potion magique. Est-ce qu'il y a quand même des clés, selon toi, pour expliquer une telle longévité et ta capacité à maintenir un tel niveau de performance après plus de 40 ans de pratique à haut niveau? Est-ce que il y a des éléments rationnels, j'imagine? Est-ce qu'il y a peut-être une part d'éléments aussi autre, plus irrationnel, qui explique que tu brilles encore à très haut niveau et que tu es très, très compétitive encore aujourd'hui?
Alors, je pense que j'ai peut-être dû à mon état d'esprit. J'ai certes, cette volonté de performer, d'aller chercher vraiment les accroches psychologique, spirituel peut-être, mais voilà, qui forge mon mental. J'ai vraiment un très gros mental, mais je vais chercher mes petites étoiles. Mon père qui m'a toujours aidée, ma mère disparue aussi, donc j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon frère, ils m'aident. Donc je vais vraiment les chercher et je crois assez en ça, donc je vais chercher ces aides-là, donc c'est plus du côté mental. Et puis ensuite,
ça t'aide à te remettre en perspective dans les moments difficiles.
Ouais.
C'est ce que tu vas chercher.
Ouais, ce que je vais chercher. Ouais, la force de me dire que ils sont là encore et ils m'aident à courir. Donc ça va. Je vais vraiment puiser dans ce mental et mes enfants qui sont sur le côté à toujours avoir accepté d'avoir une maman. Qui puisse aller à l'entraînement et s'entraîner, voilà, des moments où le soir, c'est pas facile aussi pour eux d'avoir, de se dire que maman, elle est pas là ou elle est partie le week-end pour faire une compétition. Donc, je les remercierai jamais assez de m'avoir aidé à poursuivre mes rêves. Ça, c'est juste exceptionnel d'avoir des enfants comme ça, et aussi un mari maintenant qui me permet aussi de m'accomplir aussi. Et puis, il y a une autre phase aussi de perdurer, c'est que je fais très attention à et je respecte mon corps. C'est-à-dire que pour moi, mon esprit m'emmène, mais mon corps me transporte. Et là, il faut que je fasse très attention, c'est que si je suis blessée ou si j'ai un souci physique, alors je prends du repos. J'hésite pas à me reposer parce que parfois on a tendance à vouloir s'entraîner, mais si on respecte pas son corps, c'est pas bien non plus. Donc le physique aussi, du respect du corps, à dire attention, là je sais que j'en ai fait trop, stop, parce que souvent les athlètes on casse pas par négligence, mais en tout cas se disent j'en ai pas fait assez. Donc là, moi, je pense que je perdure parce que j'ai eu des moments de coupure, de pause, de me dire, voilà, donc le respect du corps, c'est aussi important.
Donc, okay, donc il y a une très bonne connaissance de ton corps aussi.
Ah oui, ouais, honnêtement, oui. Je sens.
Tu sais identifier très vite les signaux faibles.
Ouais. Je sais quand ça ne va pas aller et que là, on va dans le mur. Et sur le dernier marathon des sables, je savais que j'allais dans le mur.
Merci beaucoup, Laurence. On va maintenant passer à la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois de l'épisode. J'ai une première question pour toi. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi?
Alors, je serais Neytiri. Alors, en fait, c'est... Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu ne connais pas.
Non, ça ne m'évoque rien. Une divinité, un cap.
Personnage du film Avatar, en fait, donc c'est en fait la princesse des clans Omatikaya qui, elle, a le respect sur sa planète de tous les êtres vivants. Voilà. Donc, Avatar, elle est lancée, elle est jolie, elle est trop belle.
Elle est un peu bleue quand même. Toi, peut-être, quand tu as eu ton petit coup de froid au Marathon des Sables, tu étais peut-être un peu bleue quand
c'est
même.
C'est ça, ouais. Oh, oui, c'est ça, aussi ça. C'est très Avatar, ouais.
Tu as vu qu'il y a la bande-annonce du Avatar 2 qui est sortie, je crois, la semaine dernière, il me semble.
Ouais,
je ne sais pas si elle y sera dans ce nouvel épisode de la saga. Si tu étais un animal, lequel serait-il?
Un félin. Un félin en coque. Peu importe, je vais dire une panthère, mais un félin, le geste de course à pied ou enfin de course à pied, de course parfait, élancé, érassé.
Donc plutôt un félin de la savane qu'un chat d'appartement, indifféremment.
Ouais, moi j'ai trois chats à la maison. Bon, j'ai pas que ça parce que je suis une adepte quand même du monde animal. J'adore les animaux. Et ouais, mes chats ils sont ouais ici ils chassent un peu les souris. Donc ils sont affûtés aussi. Mais ouais, j'aime beaucoup ce côté félin.
Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'admiration ou de respect particulier de ta part, que ce soit par ses valeurs, par ses performances?
Ben, je suis obligée, presque, parce que c'était juste exceptionnel, Catherine Switzer, quand même, qui en fait est la première femme à avoir couru le marathon de Boston, en 1967 et qui malheureusement a été arrêtée parce que les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon, catastrophe. Et heureusement,
ils ont tenté, ils n'ont pas réussi, mais ouais, par chance.
Exactement.
Le commissaire qui a essayé de l'arrêter s'est fait conduire vertement. Ouais.
Donc c'est vrai qu'elle avait fait 4 heures et quelques à son premier marathon, mais c'était quand même la première femme. Hein. Les femmes à l'époque n'avaient pas le droit de courir plus de 800 mètres, c'était juste énorme. Et tant mieux. Elle doit avoir pas loin de 70 ans maintenant.
Elle court encore, elle fait encore des marathons.
Elle court encore, ouais. Donc, et elle a quand même bien défendu la cause des femmes dans le monde du marathon, et notamment pour avoir, juste uniquement en 1984, les premiers, à Los Angeles, les femmes ont pu courir le marathon, mais c'est pas si vieux que ça. Et franchement, voilà, bah je dirais Catherine Switzer parce que voilà, notre...
Pour l'ensemble
notre,
de son œuvre.
Pour l'ensemble, ouais. Super.
Merci beaucoup, Laurence. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc le Marathon des Sables 2022, un marathon que j'ai très largement couvert puisque j'ai eu la chance de pouvoir venir sur place et faire un hors-série quotidien. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à y suivre les aventures de quatre profils, en particulier Claude Dartois de Koh-Lanta, Meryl Robert qui avait fini troisième l'année précédente. Je ne vous dévoile pas sa performance cette année si vous ne le savez pas. Puis Frédéric de la Nouvelle et sa fille de 16 ans, Cécile, qui vivait aussi cette grande aventure père-fille. Et qui, voilà, Frédéric avait décidé d'emmener sa fille à la découverte de cette magnifique aventure. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez y jeter un œil. Quelques mots introductifs. Donc...
C'est des super amis en plus.
Ils sont chouettes, vraiment.
Ouais.
Pour planter donc le décor de ce Marathon des Sables, l'édition 2021 qui avait été décalée au mois d'octobre dernier en raison du Covid a été marquée par un taux exceptionnel d'abandon avec près de 50%, qui s'explique notamment par la chaleur exceptionnelle à cette période de l'année et puis la présence d'un virus qui a décimé une partie du bivouac et de l'organisation des médecins. Enfin, voilà, ça a été l'hécatombe malheureusement. Cette 36e édition dont nous allons parler aujourd'hui s'est tenue à la fin du mois de mars dernier, un peu plus tôt qu'habituellement en raison du Ramadan. Expliquer qu'il soit un peu plus... Voilà, d'habitude, c'est plutôt aux vacances de Pâques. 901 hommes et femmes ont pu prendre... Femmes et hommes, d'ailleurs, ont pu prendre le départ de la course après qu'une cinquantaine de coureurs aient été contraints de renoncer à prendre leur avion en direction du Maroc en raison du Covid. C'est un sujet qu'on va évoquer qui te concerne aussi. Tu n'es pas passé loin de la même sanction, malheureusement. Enfin, malheureusement pour eux, mais heureusement pour toi. Et pour en revenir à la course, donc le Marathon des Sables, c'est le premier raid désertique au monde qui compte 5 étapes chronométrées de 30 km à 85 km. Pour un total de près de 250 km à réaliser en autonomie alimentaire. Le Marathon des Sables se court à allure libre, donc les concurrents peuvent marcher tout au long de l'épreuve et réussir à être finishers dès lors qu'ils sont sous la barrière horaire. Ainsi, les moins rapides parcourent ces presque 250 km à un peu plus de 3 km/h et les plus rapides à plus de 12 km/h. La chaleur, le poids du sac à dos, le relief souvent tourmenté, le sable compliquent bien évidemment la progression des coureurs, causant courbatures, crampes, ampoules et parfois même des blessures un peu plus sérieuses. Pour autant, le nombre de concurrents parvenant à bon port reste élevé puisqu'en général, on a entre 90 et 95% de finishers cette année. C'était une stat qui m'avait beaucoup étonné quand j'avais commencé à creuser le sujet il y a quelques mois. Qui dit Sarah dit évidemment très forte chaleur avec un mercure qui grimpe jusqu'à 45 degrés, parfois même au-delà des 50 degrés. Cette édition 2022 avancée dans l'année a donné aux coureurs la possibilité d'évoluer dans des températures qui étaient un peu plus clémentes, si on peut dire. Donc voilà, il convient pour cette épreuve redoutablement exigeante de s'équiper avec soin et d'être particulièrement attentif au risque de déshydratation, à la perte massive de sel ou encore au coup de chaud. Chaque année, le parcours du Marathon des Sables reste secret jusqu'à la veille du départ. Les concurrents ont cependant la garantie d'y trouver à chaque fois du terrain plat, du sable évidemment, des dunes, des dunettes, des ascensions, des descentes de djebel, des passages techniques dans des escarpements rochers, des gorges, des wads asséchés et tant d'autres surprises qui composent ce cocktail unique qu'est le Marathon des Sables. Et comme tu ne manqueras pas de nous le dire, j'imagine Laurence, le Marathon des Sables c'est certes une épreuve sportive que l'on pourrait qualifier d'extrêmement exigeante, mais c'est aussi et avant tout un voyage intérieur puissant, une véritable introspection qui fait que pour chaque coureur, il y a définitivement un avant et un après Marathon des Sables. Avant qu'on rentre un peu plus en détail dans ton expérience de ce Marathon des Sables, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va se frotter à notre rubrique La question qui pique de course épique. C'est une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. C'est très bienveillant, Laurence, tu commences à me connaître, donc pas d'inquiétude. Ça va être un vrai faux pour toi. Le voici. Lors du Marathon des Sables, il n'est pas rare de constater que certains participants déchantent lors de leur passage sur les dunes. A contrario, il semblerait qu'il y ait dans certains déserts des dunes de sable qui chantent, également appelées dunes mugissantes. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi, ces dunes qui chantent ?
Ouais, elles chantent les dunes.
Eh oui, bravo. Tu le savais. Bravo. C'est effectivement ce chant, il est émis par certaines dunes dans le désert lorsque le grain de sable qui les compose entre en résonance. Donc Marco Polo a été l'un des tout premiers à documenter dans ses écrits ce phénomène qui était inquiétant pour certains et puis merveilleux pour d'autres. Donc on compte aujourd'hui une trentaine de dunes chantantes dans le monde qui sont principalement en Chine et en Amérique, mais aussi dans le Sahara, toutes les dunes n'étant pas sujettes à pareil phénomène. L'explication de ce phénomène, elle est étudiée avec soin, mais elle n'est pas tout à fait expliquée à ce jour, en tout cas pas pleinement. Donc le son est visiblement émis lorsqu'une avalanche se déclenche de la face la plus pentue de la dune. Et selon des chercheurs du CNRS, donc on voit que le sujet est quand même très très sérieux, la coulée de sable fonctionne comme une membrane de haut-parleur. Les grains de sable se déplaceraient de façon parfaitement synchrone, produisant chacun les mêmes vibrations sur l'air qui seraient à l'origine de ce chant. Et si ces grains de sable ne bougeaient pas en cadence, les dunes sonneraient faux ou resteraient muettes. Reste à découvrir l'origine d'une telle synchronisation et les conditions précises qui permettent aux dunes cantatrices de donner de la voix. La composition des grains et le taux d'humidité du sable sont les deux principales pistes étudiées par les scientifiques pour l'expliquer. Dernière information sur le sujet, Laurence. La puissance de ce chant serait de l'ordre de 110 décibels à la surface de la dune, soit plus de la puissance sonore d'un TGV lancé à pleine vitesse. Le savais-tu ?
Bah non.
Tu l'as déjà constaté, tu l'as déjà vécu, non ?
Mais Ben, on entend quand on court, de toute façon, souvent je dis, mais le silence du désert est juste magnifique. Mais c'est un silence qui est, voilà quoi, c'est pour ça qu'on y retourne, on adore, on entend surtout. Alors en plus, quand on a la course de nuit, on entend des petites choses, on entend également les insectes ou autres qui bougent également, ou voilà. Donc ça fait que ce désert, il est vivant, et ce que tu racontes là, c'est juste fabuleux. Je ne le savais pas avec autant de détails, merci. Et mais en tout cas, ouais, j'imagine que, ouais, je pense que ça doit bien s'entendre quand. Alors, je l'ai pas vraiment vécu, ce que tu racontes. J'ai pas vraiment vécu, mais ça doit être assez fabuleux de l'entendre, comme lorsqu'on voit des mirages quand on traverse le lac asséché et que on voit ces caravanes, c'est une vraie réalité, on les voit vraiment. Enfin, je veux dire, ça doit être aussi beau que de voir les mirages, quoi.
Bravo Laurence, je suis très content, tu t'en es divinement sorti. Je vois que tu veillais parfaitement au grain avec cette question qui pique à laquelle tu as parfaitement répondu. Place maintenant à ta course épique. On va embarquer avec toi sur le Marathon des Sables 2022. Ce Marathon des Sables, c'est une très longue histoire, on l'aura compris, puisque ta première participation remonte à 2007. Tu avais un profil alors qui était plutôt à dominante route ou piste. Qu'est-ce qui t'a guidé progressivement vers, t'as ouvert en tout cas au trail, et puis qu'est-ce qui t'a guidé plus particulièrement vers cette première expérience sur le Marathon des Sables? Est-ce que tu te souviens dans quel contexte tu as été amené à te dire « Ok, cette course-là, c'est pour moi ».
Oui, alors j'ai été au Marathon des Sables, c'est une personne qui était à la Fédération Française d'Athlétisme, Michel Marle, qui l'avait fait depuis plusieurs années, et lorsqu'il nous accompagnait sur un championnat du monde de 100 km, il me disait « Mais Laurence, tu devrais venir dans le désert faire le Marathon des Sables ». Je me disais « Ouais, ça c'est quelque chose qui me plairait vraiment ». Je connaissais le Marathon des Sables puisque l'organisateur Patrick Bauer est de Champagne-Ardenne puisqu'il est de Troyes, donc il n'est pas très loin, et j'avais quelques personnes dans mon entourage qui l'avaient fait, et je me suis dit bah oui, maintenant que j'ai fait du 100 km, allez hop, j'y vais, je tente, et c'est comme ça que je suis arrivée sur le Marathon des Sables. Et dès les premiers jours, j'ai adoré, je suis tombée vraiment amoureuse du désert, mais surtout de cette course. Parce que, comme tu l'expliquais tout à l'heure dans le résumé, c'est une course quand même très atypique. Et quand on arrive sur le bivouac, ce qui se passe dans la semaine, c'est un petit condensé de vie. Les personnalités évoluent. On fait des rencontres qui, fur et à mesure, on voit vraiment les personnages dans... presque en détail, parce que au fur et à mesure des jours, la fatigue, le manque de sommeil, parce qu'on dort quand même sous une tente à même le sol, voilà, on mange ce que l'on a en autosuffisance dans notre sac, la déshydratation qui fait que on a un peu moins l'esprit, en tout cas on voit vraiment les vraies personnes, et ce qui est bien aussi, c'est que ça lime aussi les égalités, enfin au niveau égalité sociale. C'est-à-dire qu'on peut partager la tente. J'ai une personne qui peut être un simple employé ou salarié, peut côtoyer un chef d'entreprise. Ils vont être au même niveau, hein. Ils vont faire le même marathon, ils vont porter le même sac. Et l'un va aider l'autre, et ainsi, je trouve ça vraiment assez génial. Je me souviens qu'il y a une année, il y a même des prisonniers qui étaient venus accompagner au Marathon des Sables et avaient fait le Marathon des Sables, et c'était juste énorme. Ils se retrouvaient dans le désert, c'était fabuleux. C'était fabuleux dans le sens où il y avait une reconversion qui était atypique, quoi. On côtoyait, même si on ne savait pas au démarrage réellement qui étaient ces personnes. Quand on l'a su après, on s'est dit, mais c'est juste énorme. Et c'était une façon aussi de remettre en selle des personnes qui, à un moment donné, ont pris des virages difficiles.
Il y a aussi un beau brassage international. Il y a aussi des nationalités qui se mélangent. J'ai le souvenir d'avoir vu des Russes et des Ukrainiens main dans la main pendant cette épreuve. Et ça, c'est, je pense que déjà le Marathon des Sables avait décidé de laisser la possibilité aux coureurs russes et biélorusses de participer à l'épreuve. Et voilà, on a vu des belles images, mais au-delà de cette symbolique-là, c'est aussi un brassage de culture. Et puis effectivement, là aussi, un nivellement où tout le monde se retrouve dans sa plus simple expression et il n'y a pas, y a pas d'artifice.
Et c'est vrai que là, sous la tente 99, on venait de différents univers et c'était génial quoi, d'avoir toutes ces personnes.
Tu comptes 9 participations, si je ne me trompe pas, Laurence, au Marathon des Sables. Oui. Est-ce que les facteurs qui te poussent à revenir chaque année, j'imagine qu'ils ont évolué avec le temps, ou est-ce qu'il y a un socle et puis ensuite des paramètres satellites qui évoluent certaines années, peut-être guidés par de la performance, d'autres par un besoin plus fort de recentrage, enfin, voilà, comment est-ce que ça se construit et est-ce que tu trouves finalement le même enthousiasme chaque année à reprendre l'avion en direction du Maroc ?
Bah, tu as raison dans les deux sens. C'est qu'il y a un socle qui fait qu'on reste dans la compétition, on prépare son sac, mais il y a aussi une évolution à se dire « bon, maintenant, la gagne, c'est plus pour moi », alors contrairement aux autres années, et de se dire « on va essayer de faire le mieux possible ». Dans les meilleures conditions possibles. Donc, on prépare son sac comme une compétitrice, comme je l'étais avant. Mais c'est difficile de faire la part des choses. Parfois, il y a la compétition qui prend le dessus. Et même si on sait qu'on n'est plus en état d'aller matcher, c'est difficile de se dire « bon, attention, calme ». Et voilà, c'est de trouver la sagesse. Je la trouve plus bon sur le bivouac et à me dire ça va être difficile et c'est difficile quand on arrive et qu'on n'est pas en super forme mais cependant honnêtement il reste quand même la compétitrice en moi. C'est un vrai dilemme hein, dans ma tête à chaque fois.
Ça veut dire que tu te reprojettes aussi souvent sur les... Enfin, est-ce que ça t'arrive pour repenser aux éditions précédentes et au niveau de performance que tu avais alors, ou est-ce que tu as évacué ça et tu arrives à vivre ce marathon, chaque marathon de sable pour ce qu'il est ?
Non, il y a des allers-retours sur les performances d'avant. Le lâcher-prise, il se fait... certes, on part en ayant la sagesse de dire « attention, t'as 53 ans, c'est plus pareil ». Et en même temps, de se dire, voilà quoi, on accroche le dossard, les 4 épingles et voilà, on est au départ. Je me souviens d'une assez belle image dès le départ de ce marathon, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, je me suis mise derrière, je ne voulais pas être devant. Voilà, je ne voulais pas être devant en me disant, bon, je suis pas là pour la gagne, donc c'est pas à moi d'aller dans la première ligne de départ. Et c'est les Marocaines qui sont venues me chercher. Les Marocaines sont venues me chercher en me disant non, Laurence, c'est avec nous devant. Ta place est ici. Je dis mais non, les filles, attendez, j'ai 53 ans et tout. On s'est mises à pleurer et les Marocaines m'ont dit tu nous as tellement fait rêver qu'on te veut avec nous. Et donc, elles m'ont pris par la main et elles m'ont emmené sur la ligne de départ devant. Et c'était très touchant.
Si on rembobine un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont on prépare, en fait, notamment ce Marathon des Sables 2022 ? C'est quoi les grandes lignes de préparation ? Qu'est-ce qui est différent et particulier, s'il y a des choses, dans la préparation de cette course, comparativement à d'autres courses qui pourraient être à peu près similaires, en admettant qu'il y en ait ? Qu'est-ce qu'on fait de différent sur une prépa à Marathon des Sables ?
Sur une prépa, ben voilà, on va s'entraîner un peu plus sur des terrains, si c'est possible, sablonneux. Donc moi, j'étais allée du côté de Fort-Mahon, m'entraîner dans le sable, sur le bord de mer, dans les dunes. Et puis ensuite, bon, on s'entraînait avec un sac qui ne fait pas 8 kilos, hein, parce que quand on s'entraîne avec un sac de 8 kilos tout de suite sur le dos, on prend 8 kilos de charge sur les articulations, je ne le conseille pas, plutôt sur un sac de 3-4 kilos quoi, pour préserver justement bah, toujours le fait de faire attention à son corps, ce que je vous disais précédemment. C'est aussi une façon de pouvoir aborder le Marathon des Sables dans de bonnes circonstances, parce que parfois on arrive, on s'est entraîné avec un sac à dos trop lourd pendant des mois Et quand on arrive sur le marathon des sables, on s'aperçoit qu'on a une tendinite, qu'on a un problème ou autre qui fait ou articulaire. Donc là, il faut faire très attention. Par contre, je vais dire, on s'entraîne comme entre un marathon et un 100 km à raison de un peu plus de 100 km semaine pour la plupart des coureurs, entre 100, 150 ouais, km semaine. Voilà.
Est-ce que tu t'entraînes à manger du lyophilisé le soir chez toi aussi?
Non. Non, non, j'aime pas trop moi, lyophilisé en plus. Donc, j'ai tendance à manger de la semoule.
Le plus tard possible.
Voilà.
Tu attrapes malheureusement le Covid à 15 jours du départ, ce qui a nécessairement bousculé, pour ne pas dire figé, la fin de ta prépa. Comment est-ce que tu as géré cette période psychologiquement? Et puis, même si tu imagines que tu seras testé négative au moment de la course, est-ce que c'est une idée qui t'a un moment traversé l'esprit de dire que ça valait pas le coup d'y aller, de pas te lancer dans l'aventure parce que potentiellement trop amoindri, en tout cas pleine d'incertitudes?
J'ai fait attention pendant plus de 2 ans à pas attraper le Covid, à être vraiment attention, vraiment. Et je me suis dit, 15 jours avant le départ, même 3 semaines, le dernier mois avant le départ, je me suis dit, oh, faut vraiment faire attention. Il y avait de plus en plus de Covid qui se déclarait en France et enfin sur la fin de période là. Et je me suis dit, oh là là, faut vraiment que je fasse attention, faut pas que je l'attrape, quoi. Et malheureusement, 15 jours avant le départ, bing, je sens qu'à l'entraînement, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, enfin les symptômes du Covid. Quand je fais le test, je m'aperçois que je suis Covid et j'ai du mal à respirer. Donc là, bah, j'écoute mon corps, je me mets en repos 15 jours. Donc 15 jours avant le départ, j'ai plus du tout couru, plus du tout couru, alors que j'avais fait quand même une prépa qui était assez sympa. J'étais plutôt fière d'avoir remis les chaussures, de m'être entraînée avec cet objectif marathon des sables. Je tournais, oui, à 150 bornes semaine, donc c'était plutôt très bien pour moi, en tout cas. Et donc, ben, le Covid a fait que, voilà, ça m'a mis off. J'ai arrêté de préparer mon sac. J'ai tout arrêté. Et je me suis dit, ben, je vais pas pouvoir y aller. Et donc, c'était assez dur pour moi, même vraiment très dur. Je me suis dit, j'y vais pas, je laisse tomber. J'avais rien préparé, mais vraiment rien préparé de mon sac. Et puis, tout bien réfléchi, je me dis, bon, si je réfléchis bien, alors j'appelle Patrick Bauer, je lui dis, Patrick, j'ai le Covid, je peux pas venir. Patrick, il me dit, mais attends, c'est dans 15 jours, et dans 15 jours, tu seras, c'est bon, ça sera, tu seras négative. Donc, je me suis dit, ça me remet en selle quand même. Et là,
tu savais qu'il allait dire ça en plus.
Ouais.
Tu allais chercher peut-être aussi cet encouragement, c'est ça qui te disent.
J'avais besoin de l'entendre. Et je fais pratiquement tous les 2 jours. Et je vois ce Covid qui disparaît. Et je me dis, bon, bah, allez, hop, bon, c'est parti pour l'aventure. Elle va être compliquée. Je savais que ça allait être compliqué. Alors, j'avais toutes les personnes qui me disaient, mais ça ne va pas, tu ne vas pas y aller. Et plus on me disait, mais ça ne va pas, tu ne vas pas y aller, et plus je me disais, bah si, je vais y aller, et je vais y aller, et je vais être bien, et ça va aller. Et voilà, et je suis partie, il me manquait quand même beaucoup d'entraînement, de l'incertitude. Je savais que je partais que j'allais être dans l'attente avec Claude, Sam, Perrine, Steven, Alix. Je savais que j'allais être avec ces personnes-là et je me suis dit non, ça va être une super aventure. Donc, avant toute chose, je suis partie pour l'aventure et faire mon 9e. Et vraiment, ça a été ça, en fait, le deuxième objectif qui devenait l'objectif principal. Et voilà, quoi. Et je suis partie au Marathon des Sables. Et quand je suis arrivée à Errachidia, quand on a atterri, j'ai eu un contrôle inopiné des autorités marocaines au Covid. Je me suis dit, bon, vraiment, là, c'est le truc de dingue.
Quand
j'ai
flippé
en me disant, j'espère qu'ils ont le même test que nous, parce que franchement, j'étais vraiment négative en France. J'espère que je le suis encore ici, quoi. C'était bon. Donc, j'ai pris le départ de la course. Et, Et j'ai découvert le parcours parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on a le roadbook dans le bus qui nous emmène au bivouac. Et j'ai découvert qu'on avait 32, 30, 38, 85, 42 et la charity. Voilà. Donc, je me suis dit, le 85, eh ben, il va falloir aller le chercher. J'en étais conscient.
Il y a eu donc pas mal d'incertitudes sur l'avant. Qu'est-ce que globalement, tu t'attends à vivre avec ce MDS ? Est-ce que tu arrives à se projeter quand même sur ce que va être cette année ? Ou est-ce que là, c'est vraiment un jour après l'autre et plutôt l'idée, c'est de prendre du bon temps avec des personnes qui seront très directement avec toi dans la tente et puis globalement le reste du bivouac. Est-ce que c'est vraiment ça qui est la seule certitude que tu as à ce moment-là et la chose que tu as privilégiée ?
Ouais, je me suis dit, bon, j'étais affûtée quand même, donc j'étais légère. J'avais pris un sac léger, j'étais à 6,5 kg, le minimum. Pour justement éviter de me charger en plus de poids qu'il n'en faut parce que j'allais être amoindrie avec ce Covid. Je savais que je respirais pas terriblement. Mais je trouvais quand même que je devais vivre mon marathon. Voilà, il y a aussi les aléas du marathon des sables. Hein. La chaleur, tempête de sable, on s'hydrate pas complètement. Et moi, mes fantômes, entre guillemets, de la déshydratation que j'ai subie en 2013, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps présents dans ma tête et je n'ai pas envie de revivre la même chose et j'ai peur de cette épreuve longue et elle me fait peur alors que je suis une spécialiste du 100 km. Mais il y a quand même les vieux fantômes de 2013 et je suis malheureusement sur l'épreuve longue. J'ai la difficulté de cette épreuve longue.
Comment est-ce que toi, fort de ton expérience qui est plus grande sur la course, comment est-ce que tu vis ces moments-là d'avant-départ ? Est-ce que c'est vraiment l'excitation qui prime, te dire ça y est, c'est reparti pour une nouvelle édition et puis je vais vivre plein de belles choses, je ne sais pas de quoi sera fait ce marathon des sables, mais il m'apportera beaucoup et j'ai hâte d'y être. Est-ce qu'il y a aussi une part d'inquiétude sur comment ça peut se passer et qui est peut-être un peu exacerbée par le contexte dans lequel toi tu arrives sur cette édition-là ? Qu'est-ce qui prend plus le dessus ? C'est l'envie d'y aller, tu ronges ton frein sur la ligne de départ ? Comment tu te sens ?
C'est très émotionnel. C'est vraiment me dire que c'est le 9e. Je me dis, mais c'est fou. Je suis à mon 9e, donc là. C'est de se dire que je n'arrive pas, effectivement, avec pleine capacité. Mais ça, je m'en fous un peu, en fait. Je m'en fous parce que je suis là. Donc, je suis tellement heureuse d'être là que je me dis, j'aurais pu attraper le Covid une semaine avant de partir et je n'étais pas là. Donc, je suis tellement heureuse d'être là que je ne regarde même pas mon état de forme. Je suis parmi les personnes du départ et je sais que je vais pas revenir pareil comme à chaque fois parce qu'à chaque fois que je pars au Marathon des Sables, on remet tellement le disque dur à zéro. Ça fait du bien, quoi. C'est, on sait qu'on est là pour. C'est une parenthèse de vie, le marathon des sables. C'est vraiment ça. Si on le vit pleinement et les personnes qui ont fait le marathon des sables, il y a presque. Quand je préparais les personnes, parce que j'ai fait des stages de préparation au marathon des sables, et les personnes venaient à mes stages, je leur disais toujours attention, Il y a un blues derrière le marathon des sables. Il y a un manque. Vous allez vivre ce manque. Ça va être très difficile parce que vous allez beau pouvoir raconter à votre entourage tout ce que vous avez vécu au marathon des sables. Ça ne sera jamais perçu comme vous, intérieurement, vous le percevez. C'est un voyage et c'est un vrai voyage intérieur qui est difficile à raconter. C'est les images. On a une photothèque dans notre esprit qui reste, ça reste très personnel et ça reste tellement personnel que on sait très bien et à chaque départ les personnes qui ont vécu le marathon des sables ou qui vont le vivre me comprendront.
Et je pense pour l'avoir vécu aussi moi d'une certaine façon même si j'ai pas proprement parlé couru le marathon des sables. Mais je pense qu'il y a un état de disponibilité d'esprit des gens, en fait. Je pense pas que dans le quotidien, au-delà des belles images que tu peux te mettre en tête, dans la relation que tu as à l'autre, d'avoir finalement des gens, parce que tu racontais d'ailleurs tout à l'heure sur leur état de fragilité presque, tu vois, leur état authentique qui ment pas, et puis du temps finalement de se dire, d'aller au fond des choses, de rencontrer, de creuser en profondeur, d'avoir des relations qui sont pas en surface, parce que ce temps long finalement du marathon des sables d'une dizaine de jours rend ça possible. Et je pense que la nostalgie, elle peut aussi venir évidemment du manque de la pureté de cette relation finalement qu'on a à l'autre.
Sûr.
En tout cas, moi j'ai ressenti ça.
C'est sûr qu'on a de la bienveillance pour tout le monde. Tout le monde a de la bienveillance et de la tolérance. Il y a énormément de tolérance, de se dire, voilà, même quand une personne craque, même dans l'attente, on a de la tolérance. On se dit, bon, bah, fatigué, c'est normal, quoi. On n'aurait peut-être pas effectivement cette tolérance dans le quotidien, ça c'est clair, de la vie de tous les jours. Voilà, mais et puis il y a aussi le fait qu'on n'est pas accroché à nos téléphones portables, même si y a des communicants et. Voilà, il y a ce côté décrochement aussi du vrai monde et des choses qui peuvent être côté un peu assaillant que l'on voit à notre quotidien qu'on a un peu moins quoi. Donc c'est une vraie parenthèse de vie dans un condensé de vie.
Laurence, on va maintenant suivre les grandes étapes de la course, sans mauvais jeu de mots, et donc te suivre sur les 5 étapes plus la solidaire. On est donc le dimanche 27 mars 2022, il y a un mois et demi à peu près. Est-ce que tu peux nous parler de cette première étape, donc d'une trentaine de kilomètres qui fait office de mise en bouche, que moi j'ai eu également la chance de courir. Comment est-ce qu'elle s'est passée pour toi, cette ouverture de Marathon des Sables ?
Très bien. Quand je suis partie plutôt tranquille et en même temps, j'avais la sensation de légèreté, de liberté, de bien-être, de plaisir et de me rendre compte que bah, ça y est, j'y suis réellement quoi. Donc au milieu du désert et les CP sont passés comme ça en fait. Je me suis même pas posé la question. CP1, CP2, terminé. Hop, voilà.
Cinquième place. Hop, cinquième merci. Place. Bonsoir.
et je me dis bon bah, c'est plutôt bien au final. Je me fais tout un monde j'avais tellement peur de prendre un peu ce départ en me disant que j'allais être amoindrie. Bon, je m'aperçois que je suis pas si mal, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, je rentre, bivouac, je suis la première de la tente à arriver, je nettoie, je retire les cailloux sous le tapis, je me dis, je vais attendre.
Tu branches le micro-ondes,
je vais attendre le wifi. les copains, les copines, tout va bien. Ils vont me dire comment s'est passée la première étape, ça va être sympa, on va se raconter tout ça. Donc, ouais, c'est ce qui se passe. Ils sont tous, ils arrivent tous, voilà, avec le sourire, c'est super, c'est génial. Et là, on fait un peu plus la rencontre des personnes, on partage le premier repas, c'est top, c'est bien, j'étais contente.
Place le lendemain à la deuxième étape, donc de 39 km qui s'annonce un peu plus vallonnée avec notamment l'ascension du Djebel El Otfal. C'est une étape qui va être également sérieusement perturbée par une forte tempête de sable qui balayera une bonne partie du parcours et puis le bivouac à l'arrivée aussi. C'est pas parce que la ligne est passée que le vent s'arrête. Donc il y a des tentes qui ont un peu volé à droite à gauche. Comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as géré cette étape ? Est-ce que finalement ce type d'imprévu, il contribue aussi finalement pleinement à ton plaisir de participer à ce type de course ? Est-ce qu'ils en sont pleinement constitutifs finalement ces imprévus ?
Ouais. Moi, le désert, je le prends comme c'est ce que j'aime dans le désert. Même si on se dit, cette tempête de sable, on en prend plein la tête et que c'est compliqué, on n'arrive pas à avancer, on se bat contre les éléments naturels. Mais c'est ce que j'aime en fait. J'adore parce que il y a la chaleur, certes, il y a la tempête de sable, mais on est dans quelque chose qui est on sait que ça va constituer les souvenirs. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui de cette tempête de sable. Et à force d'avoir fait le marathon des sables, on sait très bien, voilà, on va parler de ça. Je l'avais eu en 2007 également, une belle tempête de sable. Je m'en suis toujours souvenue et je me suis dit, celle-là, je vais m'en souvenir encore parce que là, c'est difficile. Et j'aime bien. Et quand j'arrive sur le bivouac, pareil, la tente, elle est par terre. C'est très compliqué. on arrive vraiment vent de face, quoi. Donc, mais j'aime bien et ça va encore, je vais bien. Et les djebels que l'on passe, c'est quand même des gros djebels que je connais, que j'ai déjà fait.
Et les djebels, c'est des montagnes, peut-être pour préciser aux auditeurs.
Ouais, c'est des barres rocheuses, ouais, des grosses barres rocheuses. Et les djebels, on a pas mal de fèches-fèches, on a des petites dunettes, oui, parce que dans le désert, il y a les dunes, il y a les dunettes. On préfère les dunes que les dunettes, parce que les dunettes, elles sont assez fuyantes, si je peux parler de... Voilà.
Tu n'es pas du genre à jouer à la dunette quand tu étais petite.
C'est ça. Mais la dunette, elle n'est pas très stable. Alors que la dune, c'est quand on commence à savoir lire les dunes, on sait très bien où on doit aller courir pour que ce soit plus dur. Donc non, je vis bien. Je vais dire ces trois premières étapes du marathon des sables.
Oui, parce que cette étape, elle a fait pas mal de casses. Il y a eu 63 abandons, ce qui est quasiment 15% du peloton, ce qui est beaucoup, ce qui est plus que habituellement le nombre de finishers qu'il y a à la fin. En tout cas, il en reste plus que ça. Donc déjà, la deuxième étape a laissé pas mal de traces. Le lendemain, donc, il y a cette troisième étape qui se conclut par une longue ligne droite de 7 km. Alors, je prends cet exemple-là, mais ce n'est pas nécessairement ce cas-là qui a été peut-être le plus éprouvant pour toi. Mais comment tu gères parfois ces moments qui pourraient être propices à un peu de monotonie du paysage avec des lignes droites à perte de vue et un horizon qui se rapproche pas franchement, comment est-ce que toi, tu gères ces moments-là? Et puis, est-ce que, de manière plus globale, tu as tendance à cogiter et avoir l'esprit qui divague? Est-ce que tu fermes complètement et tu es purement dans l'association physique et mécanique? Comment est-ce que tu gères ces moments voilà, où il y a peut-être un peu plus de monotonie qui peuvent s'installer?
En fait, on a les GPS quand on court le Marathon des Sables. Donc, on sait que même si on voit le bivouac tout petit, quand on regarde le GPS et on se dit « Waouh, cette borne !» Et pourtant, on le voit. Alors, c'est très trompeur parce que les distances sont faussées dans le désert. On a l'impression que c'est tout près, mais plus on avance, plus ça s'éloigne. Donc, on se dit, bon, là, calme, c'est 7 km. Et on voit au loin ce bivouac. Mais moi, j'ai tendance à mettre le compte à rebours un peu. Comme sur les derniers 10 bornes d'un 100 bornes. On a l'habitude de... Enfin, en tout cas, moi, je réfléchis comme ça. Et je me dis, allez, c'est parti pour un compte à rebours. Donc, je ne me dis pas qu'il reste... Enfin, je me dis qu'il reste 7, mais je regarde bien, allez, 6, 5, 4, 3. J'avance un petit peu comme ça. Et la monotonie du parcours, jamais. Pas au Marathon des Sables, jamais. J'ai jamais de monotonie de parcours.
Cette capacité d'émerveillement que tu maintiens au fil des kilomètres sans problème?
Je me dis que j'ai la chance d'être là à chaque fois. Je me dis que j'ai la chance d'être là. Même quand je suis mal, je me dis que j'ai la chance d'être là, tout le temps. Le Marathon des Sables, c'est particulier. Ouais, je me dis que je suis là.
Tu es privilégié.
Ouais.
Le quatrième jour, c'est synonyme de quatrième étape, qui est elle-même synonyme d'étape longue de 86 km cette année. Donc, c'est un moment qui est redouté par bon nombre de coureurs à juste titre. C'est une étape qui a bien démarré pour toi sur sa première moitié avant de... Ce corset, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as connu sur cette étape à mi-parcours, à mi-étape en tout cas?
Alors, quand j'ai fait le début du Marathon des Sables, j'étais dans les cinq premières, les premières étapes. Donc, du coup, les premières étapes, j'étais cinquième. Je devais partir avec les meilleurs de la longue étape. Et je suis descendue dans le classement suite à la troisième étape. Du Marathon des Sables, du 38 km. Je pars le matin et non pas à midi. Donc, c'est différent par rapport à ce que j'avais vécu sur les autres Marathons des Sables où je partais avec les premiers concurrents. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, on part déjà le matin, je vais me faire rattraper par les premiers concurrents. Donc, faut bien se mettre ça en tête, de se dire, ça ne va pas être la même chose que les autres Marathons des Sables. Mais en même temps, j'avoue que je suis contente de prendre l'étape longue. Je sais qu'elle va être très longue. Je me sens un peu amoindrie, je me sens fatiguée. Mais je me dis, bon, voilà, CP par CP, c'est comme ça qu'il faut aborder l'étape longue. Donc là, je pars, avec tout le reste de l'attente. Donc, je fais une grande partie avec Steven, qui jusqu'au 30e kilomètre à peu près. Et au 40e kilomètre, je suis pas très bien, donc je ralentis et je me pose déjà au CP4 en me disant calme, il faut que je pose, il faut que je mange un truc, mais que je prenne le temps de poser. J'arrive au CP5. Au CP5, là, je suis pas très bien. Donc le CP5, je prends vraiment le temps, on prend ma tension. Les docs comprennent que je suis pas très bien. Donc là, je sais que ça va pas être bon pour moi. J'en suis consciente. Alors donc, je prends le temps, je me pose déjà une bonne demi-heure à prendre un peu plus de le temps de boire, alors que j'ai pas vraiment soif. Mais le problème, c'est quand on fait une déshydratation, malheureusement, le corps refuse de boire. Enfin bon, c'est un peu compliqué.
Toi, tu as identifié à ce moment-là que c'est une déshydratation?
Ouais, je savais que je partais. Franchement, je savais que je partais en vrille dans une déshydratation. Je l'avais identifié. Et quand j'arrive au, donc je marche beaucoup. Donc là, je sais que ça va être compliqué, mais il reste encore des bornes. Il y a 85 bornes à faire. Donc j'ai encore 30 km, plus de 30 km à parcourir. J'arrive au CP6 à ce moment-là. Et au CP6, là, je suis vraiment pas bien. Mais vraiment, vraiment pas bien. Donc là, on prend les constantes. J'ai 10 de tension. Je m'assois et je me mets à trembler. Là, la température, c'est catastrophique. Je suis à 34,7. Donc, je suis en hypothermie. Les docs retirent mon sac de couchage. De mon sac de couchage, on met dans un sac de couchage et dans une couverture de survie. Et on essaye de me réchauffer tant qu'on peut. Je défais mes vêtements mouillés parce que je pense que j'ai beaucoup transpiré. Alors que habituellement au marathon des sables, on transpire, mais ça s'évacue très vite. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment les affaires trempées. Il fait 8 degrés à ce moment-là. La température le soir a quand même pas mal chuté. Donc, je m'en suis pas rendu compte de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais froid aussi. Et puis, j'avais 0,80 en glycémie, ce qui est peu. Donc, également, une hypoglycémie qui arrivait. Donc, les constantes étaient très mauvaises. Les docs me disent de me poser. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je me pose. Et si ma température remonte pas dans les minutes qui suivent, ils seront obligés de me perfuser parce que je suis trop déshydratée.
Ce n'est pas neutre comme décision, la perfusion, au-delà de l'intérêt médical que ça présente, ça veut aussi dire pénalité pour toi.
Pénalité,
du temps que tu n'as pas envie de prendre.
Donc, je me dis, bon, je me suis déjà posé beaucoup, je reprends une pénalité d'une heure et demie. J'ai réfléchi à plein de choses et je me dis, non, je ne veux pas prendre en plus cette pénalité et puis je ne veux pas être perfusée, je ne veux pas, donc je refuse la perfusion. c'est pas bien, mais je la refuse. Et les docs me disent, bon, on attend un quart d'heure, 20 minutes. Mais Laurence, dans 20 minutes, si ta température n'est pas remontée, il n'y aura pas le choix. C'est nous qui allons prendre le choix pour toi. OK, donc je me laisse le temps de 20 minutes, ce qui n'arrange rien sur le temps que je reste au bivouac. Et là, en fait, pas le choix. De toute façon, j'étais toujours à 34,7. Ce n'était pas possible. Donc, ils me perfusent. Et je tremblais, mais vraiment comme une feuille. Et j'étais vraiment pas bien. Et au bout d'une heure et demie, donc là, il doit être à peu près 9h du soir, quelque chose comme ça. Et ils me disent, bon, jusque 11h, tu poses, tu es obligé de poser. Et jusque 11h, je me pose. Et là, je me calme aux alentours de 11h, une fois qu'ils m'ont fait la perf. Donc, je pense que mon corps se régénère. Et à 11h, ils viennent me voir. Et ils me disent, bon, Laurence, on va revérifier tes constantes, peut-être que tu peux repartir. Et moi, je leur dis, bon, peut-être encore 5 minutes parce que je suis vraiment pas bien. Je sens que je suis très fatiguée et je leur demande 5 minutes, quoi. Et je m'endors. je m'endors. Je suis tellement naze que je m'endors. Sauf que j'ai plus de montre, j'ai plus de GPS qui s'est arrêté, j'ai plus rien, quoi. Et là, en fait, je me réveille d'un coup, comme si j'avais raté le train, comme si j'avais raté un truc. On repart sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'étais toujours en retard. Donc, je me dis, waouh, quelle heure il est? Et là, les docs me disent, non, t'inquiète pas, t'as encore le temps. Parce que eux, forcément, ils sont dans la perspective de finir le marathon des sables. Et ils me disent, t'as encore le temps, il est 2h du matin. Et là, je me dis...
Descente d'organes.
J'ai pris tellement cher. Je me dis, quoi? Et là, je me dis, c'est horrible, quoi.
Ouais, et là, j'ai dormi 3 heures.
J'ai dormi 3 heures. Je ne m'en suis pas rendu compte tellement j'étais fatiguée, épuisée. Et sans doute, le côté... je pense de la fatigue, peut-être post-Covid, peut-être tout ça, enfin tout se mélange, mais j'ai une grosse fatigue réellement. Et je me rends compte que je devais être très, très, très fatiguée. Et donc, la décision, c'est de se dire, il est 2h du matin, je suis toute seule, enfin là, je suis sous l'attente des docs, il faut que je reparte, mais j'ai encore 20 km à faire. J'ai plus de GPS, donc je n'ai plus de montre, je vais partir pour 20 bornes. Donc, ils me reprennent les constantes. Je suis à 36 de température, je suis remontée à 11,5 en tension et la glycémie est un peu plus haute. Donc, je demande qu'ils me remettent le sac sur le dos. Je n'ai qu'une seule pensée, c'est que je sais que ma fille qui regarde et qui suit la course, comme mon fils et mon mari, mais Ambre fait mon committee manager sur les réseaux et elle regardait...
le suivi live sur le site. Ouais.
Exactement, sur le site. Et je me dis, mais elle doit se dire, elle est coincée au CP6, c'est terminé, la course est terminée. Quoi. Et moi, je ne peux pas leur montrer que la course est terminée et je leur avais promis une chose, c'est de ne pas abandonner. Et cette promesse de ne pas abandonner était trop importante. Donc, je demande à ce qu'on me remette le sac à dos et je repars pour 20 km, 2h du matin. Et je me dis... La seule chose maintenant, c'est le soleil, quoi. Il faut t'aider des éléments naturels. Et je me promets une chose, c'est je me dis, il faut que je sois avant le lever du soleil au bivouac parce que mes amis, ma famille du bivouac, ils doivent m'attendre, ils doivent se dire, mais elle est où? Elle n'est pas rentrée, quoi. Et Claude, qui s'était arrêté au CP6 et m'avait donné une compote de pommes en me disant, non, Lolo, il faut que tu finisses. Je veux te voir sous la tente ce soir. C'est pas possible. Il faut que tu rentres. Je pensais aussi à Claude, Sam, à X. Vraiment, c'est et voilà. Je me suis dit bon, bah, allez, hop, il faut que je sois là avant le lever du soleil. Et je regardais à l'horizon. Je regardais que l'horizon, le soleil, tant qu'il se levait pas. Je me suis dit. Je suis encore dans mon objectif, mon nouvel objectif d'arriver sur les bivouacs au petit matin. Et j'arrive à 5 heures du matin, je vois l'horizon se pointer, le soleil, les premiers rayons, et je me dis non, faut que j'y sois, quoi. Et quand j'arrive sous la tente, ils sont tous, oh, il y a Laurence qui est arrivée, Laurence, elle va arriver.
Par contre, elle n'a pas les croissants.
Moi qui étais toujours la première à nettoyer la tente et tout, là, ils étaient tous allongés, on fait de la place et soulagés. Et moi, soulagée aussi d'être rentrée. Et je me suis dit, quand ma fille va se réveiller le lendemain matin, elle va se dire, en fait, ça y est, elle bip sur le bivouac. Et je pensais qu'à ça, quoi, en me disant, voilà, quoi. C'était l'objectif.
Journée de repos donc qui va suivre cette arrivée au petit matin avant une dernière étape chronométrée qui est l'étape marathon. Tu vas nous le raconter, mais c'est une étape qui s'est bien passée. Tu as retrouvé relativement tes moyens. Et puis surtout, tu es dans des bonnes dispositions psychologiques. Enfin, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette cinquième étape au bout de laquelle vous attend Patrick Bauer et puis la médaille de finisher qui est remise à ce moment-là?
Alors, la journée de repos, je m'isole un peu. Je suis très triste de ce qui m'est arrivé la veille. J'ai du mal à accepter tout ça. C'est difficile. Donc, je prends le temps, je m'isole. Je vais honnêtement verser quelques larmes au pied d'un camion un petit peu plus loin. Là, c'est, personne ne sait ça, mais autant vous le dire là, j'ai été vraiment très triste de me dire il est vraiment différent ce marathon des sables. Et c'était assez dur. Et je me suis dit, bon, il y a le marathon demain. Et là, pour le marathon, il faut que tu sois digne d'une marathonienne et d'une marathonienne des sables. Donc, je prends le départ du marathon en ayant eu encore le fait de partir dans les premiers, puisque ceux qui sont au-delà du classement 200, parce que moi, j'ai pris tellement un tir que j'étais très loin dans le classement. Donc, je pars dans les premiers et je pars avec les personnes qui, normalement, sont quand même bien moins fortes que moi, de base. Et je pars en me disant, mais je ne peux pas partir en tête comme ça, des 200. Voilà, je pars et puis je m'aperçois, je discute avec un ou deux gars sur le marathon qui me disent, oh là là, j'ai pris cher. Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à avoir pris cher. Et là, je me dis, bon, en fait, attends, relativise. Il y a d'autres personnes qui prennent cher comme toi. Et je me suis retrouvée avec des compagnons de route qui étaient aussi sur leur faim, qui ne s'étaient pas exprimés comme ils voulaient. Et je me suis dit, mais c'est ça mes vrais compagnons de route. C'est mes compagnons de galère. Il faut que ce soit mes vrais compagnons de galère. Et je me refais plaisir. Et au final, quand je pars sur cette épreuve du marathon, mais je me fais de nouveau plaisir, je retrouve les sensations comme le premier jour et je suis très étonnée et je me dis, mais c'est fou comme quoi on peut, un jour n'est pas fait comme l'autre. Et Patrick me voit arriver, il est très étonné, il me dit, mais Laurence, qu'est-ce que tu fais là? Mais je dis, mais je ne sais pas, je vais surfer une santé, je suis super bien ces derniers jours et puis je la veux cette médaille. Donc, j'étais tellement contente que voilà, je me fais plaisir sur la dernière épreuve et je fais un chrono qui n'est pas non plus négligeable. Donc, je suis contente d'arriver. Rachid El Morabiti, les premiers me doublent que… dans les derniers kilomètres du marathon, puisqu'ils sont partis un peu après moi. Et donc, je suis vraiment contente et je suis contente de le finir comme ça. Et c'est là où je me dis, je finis bien, ça ne veut pas dire que ça sera le dernier. Peut-être qu'il y en aura d'autres, des marathons des sables.
Et donc, c'est bizarre.
Comme c'est bizarre.
Quelle surprise.
Et voilà, et je me dis, ce marathon des sables, il est différent encore des autres et c'est bien et il m'a touché ce marathon des sables parce que les personnes dont j'ai partagé l'attente qui me voyaient comme l'athlète de haut niveau qui avait gagné trois fois le marathon des sables, une fois deuxième plus mon palmarès. Ils ont vu aussi ma défaillance, mais aussi la résilience à ne rien dire et à accepter que ce marathon des sables allait être dur. Et je pense que c'est ce qui fait toute ma carrière sur les épreuves que j'ai réussies. On ne peut pas être bon systématiquement à chaque fois qu'on prend le départ d'une épreuve et j'ai eu plein de messages derrière ce marathon des sables où les personnes m'ont vraiment félicité d'avoir été au bout et de me dire que ça devait être très dur et je les assure que c'était très dur mais de se dire d'avoir cette capacité de résilience et d'acceptation de la défaite et de la défaite physique, mental, moral, ce qu'on veut, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est d'avoir prouvé qu'on pouvait quand même aller jusqu'au bout.
C'est ça ton principal enseignement. Enfin, c'est ce que tu veux, en tout cas, t'es peut-être révélé de nouveau, en tout cas de différent des autres éditions, c'est ça, c'est cette capacité de rebond et de résilience, et puis accepter que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu.
Et le message aussi, je ne pouvais pas dire, ma fille qui rêve de faire le marathon des sables, réellement, si elle le fait, ça va être dur. Si moi déjà, juste le fait qu'il va falloir que je marche 20 bornes, je ne l'accepte pas, le message, il est mauvais. Donc, c'était important aussi de montrer que bah, parfois, oui, ce n'est pas parce qu'on est athlète et très bon athlète qu'on doit toujours performer. On a le droit à nos défaillances et il faut respecter nos défaillances. Et il n'y a pas de critique derrière la défaillance. Et ce qui fait peur aux athlètes de haut niveau, bien souvent, c'est la critique qu'ils pourraient subir s'il y a une défaillance. C'est dur parce qu'on nous attend au virage, mais il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, il faut rester humain. Et c'est important aussi de montrer qu'on est comme ça.
Et qu'on peut l'accepter.
Et qu'on peut l'accepter surtout.
Question traditionnelle et extrêmement délicate de partage de course. S'il y avait une image, si là je te parle du Marathon des Sables 2022, quelle est la première image qui va te venir à l'esprit? Celle que tu gardes bien au chaud. C'est ce moment de partage avec tes camarades de tente.
Ouais, la découverte des personnages de ma tente. Ouais, j'ai bien aimé découvrir chaque personne parce que tous les autres marathons des sables que j'avais fait, je connaissais toutes les personnes dans la tente avant de. Voilà, à chaque départ. Enfin, en tout cas, je savais, je connaissais vraiment les personnes. Là, j'ai découvert chaque personne et chaque jour, je découvrais autrement les gens parce que de toute façon, on découvre tous les jours des personnes. Et ouais, j'ai vraiment, je vois par exemple Claude, Sam, Alix, Steven, Perrine, également. Laura, ça a vraiment été des personnes que j'ai beaucoup appréciées. Sandrine, je la connaissais déjà, mais ouais, c'est devenu des amis. Et voilà, j'ai découvert un autre univers et l'univers aussi des influenceurs. Donc c'est marrant, ils m'ont aidée aussi.
Ouais, ils sont effectivement, je confirme, je les ai trouvés très
ouais,
très sympas.
Ouais, c'était sympa, on s'est marré quand même, c'était bien. Ouais.
Tu connais. On va parler un peu d'avenir maintenant. Laurence, il me reste trois questions avant qu'on se dise au revoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur tes grands rendez-vous de l'année 2022, donc à la fois dans un registre sportif personnel, mais aussi notamment dans ton rôle d'encadrement et je pense à ce rendez-vous fin août qu'on a évoqué pour les championnats du monde de 100 km à Berlin. C'est quoi les dates phares qui sont sur ton agenda 2022?
Alors, déjà au mois de juin, le 26 juin, il y a le trail de la Grande Champagne où je suis la marraine de ce trail. Donc, je suis contente d'aller faire ce trail qui est aux alentours de Cognac. Ensuite, il y aura, oui, effectivement, l'accompagnement des championnats du monde de 100 km. Ça, c'est au mois d'août. Et au mois de septembre, je vais faire un peu la même chose que le MDS au final, mais ça s'appelle le Grand to Grand et c'est la traversée du Grand Canyon en 6 étapes également. Voilà, et je suis trop contente de partir là-haut et de refaire une aventure bivouac parce que franchement, j'aime bien quand même ce principe de bivouac. Voilà, et j'aimerais aussi, j'ai aussi un autre projet forcément, c'est de faire le tour des Annapurna, là avec Ambre, puisque quand j'avais fait l'ascension du Kilimandjaro, j'avais tellement aimé que je me suis dit que de refaire des hauts sommets, c'est aussi une belle chose. Ça, c'est une façon un peu de rester, alors il n'y a pas de compétition puisqu'on ne met pas le dossard, mais on est dans l'aventure. C'est pour ça que j'aime certes la compétition, mais j'aime surtout l'aventure et l'aventure humaine. C'est ce qui me plaît. Voilà. Et dans la course à pied, il y a une vraie aventure humaine. Si je dois revenir à à la personne que j'avais choisie tout à l'heure, Catherine Switzer, elle avait une expression qui disait que la course à pied est le phare de l'égalité. Je suis complètement d'accord avec elle.
Laurence, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le traditionnel motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère, qui illustrerait ta philosophie de vie ?
Alors, oui, je dis souvent, on ne franchit pas un précipice en deux fois. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on décide de faire quelque chose, il faut y aller direct parce que trop réfléchir, on n'avance plus.
Message reçu. Et tu en as sauté un certain nombre de précipices tout au long de ces années de pratique et d'exploits sportifs.
Ouais, il faut oser, il faut tenter, il faut faire. Vivez vos rêves, franchement, à fond.
Pas trop de tergiversation.
Ouais, non. On a le droit de prendre une course d'élan pour sauter le précipice, mais il ne faut pas qu'elle dure 10 ans.
Il faut accepter effectivement la part d'inconnu et la part de risque.
Exactement.
C'est comme ça qu'on est aussi, on connaît des beaux accomplissements et une fierté, une satisfaction qui marque, qui donne confiance. Merci beaucoup Laurence, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. On a passé une heure et demie ensemble, ça a été fabuleux de t'entendre. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre dans tes guêtres au fil des kilomètres et puis aussi au cœur de l'attente 99, cette aventure d'une vie qu'est le Marathon des Sables. C'est un immense privilège pour moi et puis pour nos auditeurs d'avoir pu bénéficier de ton retour d'expérience sur cette course, pas comme les autres, on l'a compris, mais aussi plus largement sur ton parcours sportif si riche et source de tant de précieux enseignements. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle, de réussite dans tes projets professionnels, je sais qu'ils sont nombreux, et puis enfin de belles et enrichissantes aventures sportives. Individuellement, avec les tiens aussi, je sais combien ça compte pour toi. Et très égoïstement, j'espère très sincèrement qu'on aura le plaisir de se retrouver au plus tard dans 50 semaines dans le sud du Maroc sur un bivouac organisé en cercle concentrique et composé de tentes marron de 8 personnes. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, de quel genre d'événement il pourrait s'agir, mais j'espère qu'on ira l'occasion et le plaisir de s'y retrouver.
Ça serait super, j'attends que ça.
Merci encore pour nos échanges, Laurence, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.